De l'Antarctique au Spitzberg, des Galapagos au Groenland, laissez-nous vous étonner. Réalisez vos rêves en embarquant avec Hurtigruten vers des contrées mythiques. Retrouvez le goût de l'aventure et de l'émerveillement face à une nature et une faune spectaculaires. Enrichissez vos connaissances aux côtés de nos experts et abandonnez-vous au confort chaleureux et informel d'un navire Hurtigruten. Réservez votre croisière pour 2023 avant le 30 juin sur hurtigruten.fr et économisez jusqu'à 500 euros par personne. Offre soumise à condition.
À voix nue. Cette semaine, Alexandre Breton rencontre Irène Théry. Ce soir, le choix de la famille.
Irène Théry, bonjour.
Bonjour Alexandre Breton.
Nous nous sommes quittés hier sur votre engagement féministe, notamment dans la revue d'En Face, qui vous conduit, au début des années 80, à un nouveau tournant. C'est un tournant vers la sociologie, notamment la sociologie du droit. Et vous conduira aussi, en particulier, à vous intéresser à un objet particulièrement d'ailleurs déconsidéré, dévalorisé, c'est celui de la famille. J'aurais aimé qu'on reprenne aujourd'hui sur ce tournant sociologique chez vous.
Oui, je crois que si je suis tout à fait honnête, je dirais que dans mon milieu familial en particulier, il n'y avait pas une considération très grande pour la sociologie. Il y avait de la considération pour la philosophie, il y avait de la considération pour l'histoire, il y en avait pour les lettres, la littérature. La sociologie, c'était toujours soupçonné de justement d'être ce qu'on faisait pour faire du militantisme par d'autres voies. Et donc, je m'engageais dans un terrain qui était assez difficile, puisque moi, ce que je voulais justement, c'était faire une sociologie engagée, c'est-à-dire liée à une compréhension des changements du monde et qui contribue à les éclairer. Et donc, pas de la sociologie comme ça, et vraiment liée en particulier à cette question des transformations majeures de la vie des femmes et des hommes sous les coups de cette nouvelle valeur d'égalité des sexes. Mais je voulais pas faire une sociologie militante. J'étais pas là pour déguiser en travail sociologique des convictions que j'aurais déjà eues avant. Je voulais vraiment explorer ce que, y compris dans mon engagement militant, j'avais laissé obscur, qui n'était pas compréhensible, que les théories militantes n'expliquaient pas. Les théories militantes, elles étaient faites pour donner des légitimités à l'action. La sociologie militante, elle était là pour délégitimer des positions adverses. Et moi, je pensais vraiment déjà à cette période-là que il n'y avait pas de contradiction, que l'engagement pour du changement n'avait qu'à gagner à une description juste de la réalité. Et donc une description qui soit capable de voir le débat lui-même et pas simplement de définir une position dans ce débat. Voilà, et c'est ça qui m'a fait m'engager vers cette question de la famille, qui était une question très très mal vue.
Qui représentait ce que vous appelez cette sociologie militante?
Évidemment, à l'époque, c'était moins clair que ça n'est devenu après, mais c'est sûr que quelqu'un comme Bourdieu n'avait pas commencé comme ça, mais plus ça avançait dans ces années-là, plus il devenait vraiment le représentant de la sociologie militante. Et pour moi, par exemple, son livre qui est paru très peu de temps après « La domination masculine », c'était exactement reproduire dans la sociologie ce que j'avais vu dans le militantisme, c'est-à-dire la passion du dévoilement. Vous êtes des aliénés, je vais vous découvrir la réalité que vous ne voyez pas. Entre Colette Guillaumin et Bourdieu, c'est exactement deux faces de la même tentative de dévoiler ce qui est caché aux yeux. Et La domination masculine, c'est quand même un livre assez terrible, qui justement en rajoute en expliquant que les femmes ne sont que des signes, des signes fiduciaires. Enfin, bon, nous éloignons-nous encore plus de l'expérience qu'il est possible. Donc c'était pas cette sociologie-là que je voulais rejoindre. Et donc je n'avais pas de maître en sociologie quand j'ai décidé de devenir sociologue. J'y suis arrivée simplement, et peut-être là je dois rendre hommage à mon père, qui lui venait de la philosophie et s'était tourné vers les sciences humaines, mais à travers la psychologie expérimentale, c'était l'idée d'une méthode. Voilà. Je me suis dit, on peut observer le réel avec des méthodes scientifiques. Il faut essayer de le faire, et c'est ce que je vais essayer d'apprendre. Et c'est ça qui m'a amenée à me tourner vers une thèse en sociologie du droit, alors que je n'avais jamais fait de droit, que je ne connaissais rien au droit, mais je voulais faire une thèse qui soit justement une possibilité d'explorer ce que moi je ne connaissais pas. C'est-à-dire, je voulais aller à l'exploration de l'inconnu pour moi. J'allais pas chercher des confirmations de mes convictions, comme on fait dans une sociologie militante, où on sait d'avance ce qu'on va vouloir démontrer. Je voulais explorer ce qui m'échappait. Et donc, je me suis dit, la famille, c'est un domaine, à la fois très investi. Ça va être là que ça va se passer. Aujourd'hui, ça sera plus sur les questions, comme on l'a dit la dernière fois, ça sera pas sur les questions du droit de vote, ça sera vraiment sur les questions de la vie privée, du partage des rôles dans la famille, de la possibilité de concilier la vie familiale et vie professionnelle, la question de la sexualité, la question de la procréation. C'est surtout ça qu'il va y avoir du changement majeur. Mais comment l'étudier d'une façon scientifique, c'était ça ma question. Et je me suis dit, il y a un endroit où je peux observer la réalité en train de se faire, c'est en observant la scène judiciaire. Je me suis dit, la scène judiciaire, c'est un lieu extraordinaire où les gens se battent à la fois pour des valeurs, ils doivent se référer à des valeurs, et en même temps, ils se battent... ils jouent leur vie, les transformations des normes, elles sont en action. Je pourrais observer le changement des normes en action et pas simplement tel qu'on vient de raconter au sociologue en lui donnant des opinions. Et c'est ça qui m'a amené à faire le choix donc de la sociologie du droit, qui n'était pas du tout prévu au départ. C'était l'idée, cherchons une façon scientifique d'étudier le changement des normes et des valeurs qu'on a sous les yeux, qui est en train de se faire dans un domaine très difficile, parce qu'il est familier, justement. Le familier, c'est difficile. La famille, c'est le familier. Il fallait lui donner un peu de distance, un peu d'étrangeté pour ne serait-ce que le décoller des évidences. Et la scène judiciaire le permettait. Et donc, j'ai fait cet investissement de devenir sociologue du droit, ce qui n'était pas du tout là non plus prévu pour moi.
Si bien que votre engagement féministe vous conduit à un travail sur la famille. Travailler
donc,
sur la famille.
Voilà, la famille, c'était parce que c'était à la fois, je pense, le cœur des changements, en même temps une sorte de, comment on peut dire ça, vous savez, le lieu obscur, l'œil du cyclone du féminisme, c'est-à-dire que le féminisme dénonçait la famille, mais en même temps, on avait des familles, on aimait nos enfants, si on avait des enfants, nos parents. Il y avait quelque chose, un espèce d'écart énorme entre le discours anti-famille et l'expérience vécue par chacune de nous, d'aimer des gens, d'être née dans une famille, de vouloir sans doute en faire une, etc. Et c'était cet écart que je me suis dit, il faut trouver les moyens de l'explorer. Au départ, j'avais pas beaucoup d'armes, et je me suis dit, il y a une arme, c'est l'enquête. Voilà. J'étais peut-être un peu scientiste, on va dire, même, de ce point de vue-là. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut faire l'enquête la plus scientifique possible. Et donc, observons les normes, les valeurs, les références en train de changer. La scène judiciaire, c'est une scène où on n'argumente pas pour le sociologue, on argumente pour soi. On a de l'argumentation. La vie s'argumente pour de vrai, quoi, en quelque sorte. Et je me suis dit, allez essayer d'observer ça à travers, soit directement, soit à travers des archives judiciaires. Ça va me permettre d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans ce domaine-là.
Sur quoi portent les premières enquêtes ?
Alors, ma première enquête, c'est celle donc pour ma thèse, qui porte sur le divorce, l'usage judiciaire du critère d'intérêt de l'enfant dans les divorces. Alors, encore une fois, ce qui m'intéressait à travers ça, c'était pas les enfants spécialement, c'était que ce critère d'intérêt de l'enfant n'a pas de contenu, c'est ce qu'on appelle une notion vide. Hein. Et donc, c'était de me dire, si je regarde de quoi on remplit cette notion cadre, cette notion vide, quel argument on va mettre dedans, eh bien, je pourrais observer les valeurs, les références des gens en action, en quelque sorte. Je serais une spectatrice d'une scène extraordinaire où on débat des valeurs, des représentations, des normes, et où les gens y jouent quand même leur existence. C'est ça que j'ai essayé de faire par cette thèse, qui essayait d'affronter une question qui était quand même assez complexe à l'époque. sur ces changements de la famille. Donc, j'ai dû me former au droit, complètement. J'ai ajouté, je me suis formée à la sociologie, à la méthode sociologique, au droit. J'étais vraiment, j'avais une énergie à cette époque. Je sais pas comment je faisais parce que j'élevais aussi des enfants en même temps. Et donc, quel était le problème en fait? Et pourquoi est-ce que j'ai voulu faire une thèse sur ce sujet du divorce? À part que c'était un révélateur, si vous voulez. C'est qu'on avait une situation qui était assez étrange à la fin des années 70. Quand on y réfléchit, on avait eu tout un train de réformes très important qui avait été mené par des gouvernements de la droite libérale, Giscard d'Estaing, Pompidou, qui avaient vraiment modernisé énormément le code Napoléon, le code civil, donc le droit de la famille. On avait vu successivement la remise en cause de la puissance maritale, de la puissance paternelle, 70 à travers le passage de la puissance paternelle à l'autorité parentale. On avait eu la remise en question de l'opposition classique entre la famille légitime, la seule vraie, et la famille naturelle. Tout ce qui avait fait le drame de la vie de mon arrière-grand-mère et de ma grand-mère, cette opposition entre l'honneur de la femme mariée et la honte de la mère hors mariage et de l'enfant né hors mariage. Principe d'égalité, donc des filiations naturelles et légitimes en 72. En 75, année extraordinaire, on a à la fois le divorce par consentement mutuel. On renoue avec un divorce qui avait existé à la Révolution française, puis qui avait été aboli à la Restauration, jusqu'au moment où d'ailleurs il n'y avait même plus de divorce du tout, pendant la plus grande partie du 19e siècle. Et c'était évident que c'était une réforme qui favorisait l'émancipation des femmes, et puis bien sûr la loi Veil sur l'IVG en 75 aussi. Donc on avait l'impression, il y a eu un paradoxe, qu'on avait tout modernisé, et donc cette famille qu'on avait vue connaître ce qu'on pourrait appeler ses 20 glorieuses, après la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez, la famille, celle que, justement, dans laquelle je suis née, que mes parents ont construite, c'était une famille finalement très stable. La période, si vous voulez, 45, 65 et plus, c'était une période où les gens se mariaient, faisaient beaucoup d'enfants et divorçaient très peu. Et donc, quand il y a eu toutes ces réformes, je me souviens que le garde des Sceaux de l'époque, en 75, donc la dernière, a dit « Le mariage ne s'est jamais si bien porté, et donc, en le modernisant par le divorce, on va encore renforcer la famille, etc. » Et évidemment, il y avait un écart entre cet espoir, une bonne modernisation pour mettre le droit napoléonien en accord avec justement les valeurs d'égalité, etc., et des comportements qui échappaient complètement à toutes les prévisions, puisque à partir des années 70, en fait un peu avant, mais on a mis du temps à le comprendre, on a commencé à avoir des bouleversements qui étaient la stupeur pour les démographes de l'époque, dont mon directeur de thèse, Louis Roussel, puisque on a vu donc le développement d'abord de la cohabitation juvénile, puis ensuite des familles naturelles. Les gens ont fait des enfants sans se marier, de plus en plus, et puis le divorce. L'augmentation extraordinaire du divorce, à la suite du divorce, les familles monoparentales, etc. Et donc, un paysage complètement transformé. Et la question était, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? On vient de tout moderniser. Alors, évidemment, la thèse, immédiatement, ça a été, c'est la crise. C'est la crise de la famille. Et pourquoi est-ce que c'est la crise de la famille? Parce que... c'est l'individualisme débridé est en train de tout casser. Voilà. Autrefois, c'était mieux avant. Les gens avaient le sens des solidarités, de la responsabilité. Mais aujourd'hui, chacun ne pense plus qu'à soi. Et donc, ces individualistes dopés à la consommation ne veulent pas faire d'enfants parce qu'ils veulent s'occuper davantage d'eux-mêmes. Ils divorcent à la moindre occasion parce que les engagements de solidarité leur pèsent. La moindre sirène qui passe fait oublier ses devoirs, etc.
Société atomisée.
Atomisée, pas simplement. L'idée d'une décadence individualiste chez ce qu'on appelait les familialistes. Et puis en face, ceux qui disaient, mais non, il y a plus d'authenticité, mais qui disaient la même chose, c'est plus d'individualisme, mais c'est mieux qu'il y ait plus d'individus. Et donc, qu'on soit opposé à cet individualisme, qu'on le dénonce comme étant l'individu roi, ou qu'on le valorise en disant l'individu émancipé, c'était cette thèse qui l'emportait. Et c'est là que, justement, je peux faire le lien avec mon histoire personnelle. C'est que moi, d'emblée, j'avais une autre hypothèse, qui était que le moteur majeur de tout ça, ça n'était pas l'individualisme, qu'on le prenne négativement comme un égoïsme ou positivement comme un mouvement vers l'authenticité, c'était un changement complet de la règle du jeu lié à l'égalité des sexes. C'est-à-dire que ce dont on venait, et c'était surtout visible si on avait fait du droit, hein, c'était quand même d'un modèle matrimonial dans lequel l'hypothèse c'était puissance maritale, puissance paternelle, solidité autour du mariage, qui doit être idéalement indissoluble parce qu'il est le pivot de la famille. Et pour qu'il soit indissoluble, eh bien, il faut qu'il y ait une forme de complémentarité hiérarchique en son sein. Et donc, mon idée, c'était que c'était ce modèle matrimonial et hiérarchique qui était en train de se défaire sous nos yeux et que c'était trop difficile de savoir ce qui émergeait, mais ce qu'il fallait aller observer, c'est pas quelque chose qui se défaisait, c'était que quelque chose forcément émergeait. Si d'anciennes normes disparaissent, c'est que d'autres sont en train d'émerger. Et donc, en travaillant sur le divorce, par exemple, mon intérêt, c'était d'essayer d'observer la nouvelle donne qui était en train de se mettre en place. Donc, si vous voulez, ça m'a conforté dans l'idée que, par rapport à d'autres approches scientifiques qui sont issues du féminisme, qui sont des approches qui ont été très importantes, hein, mais qu'on pourrait dire comparatives. J'ai beaucoup de collègues qui se sont intéressés, en particulier en démographie, mais pas simplement en économie, à faire une étude comparée du sort des femmes et du sort des hommes. Hein. Quel est le niveau de salaire des hommes et des femmes, etc. Dans beaucoup de domaines, on peut faire des comparaisons à la fois des droits et des opportunités et des uns et des autres. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé au fond, je ne disqualifie pas du tout les approches comparatives, c'était de dire l'égalité, c'est pas simplement plus de droits, plus d'opportunités pour les femmes, c'est un changement de la règle du jeu social, et donc c'est une approche par les relations. Qu'est-ce qui change dans les relations quand progressivement les femmes deviennent les égales des hommes? Et c'était ça que je voulais observer à travers le divorce. Qu'est-ce qui change dans ce cas-là? J'ai vraiment mis les deux pieds, on va dire, dans le changement, hein, au moment même où il se produisait. Pour vous donner une idée, en 1975, réforme du divorce, divorce par consentement mutuel. C'est vu vraiment comme un progrès de la liberté, mais aussi de l'égalité des sexes, par rapport à l'idée que ça n'était qu'une par exception en cas de faute, qu'il fallait... Donc il y avait quelque chose d'une nouvelle donne. On peut divorcer parce que on ne s'entend plus et pas forcément simplement parce qu'il y a eu une enfreinte, une faute, etc. Et donc en 1975, il y avait une règle très simple. La garde sera confiée à l'un ou l'autre des parents en fonction de l'intérêt de l'enfant. C'est là que j'ai décidé de travailler sur cette notion d'intérêt de l'enfant qui était une notion vide qu'elle est remplie. Eh bien, ce que j'avais sous les yeux, que j'ai pu observer, on va dire, année après année, ce qui est apparu dans ces années-là, c'est que la traduction de l'égalité, c'était justement d'abandonner l'idée que forcément, c'était l'un ou l'autre. Vous voyez, c'était le « ou », c'est-à-dire l'idée que quand il y avait une rupture, c'était une sorte de veuvage social, le coupable était exfiltré de la famille, qui restait avec l'innocent. C'était ça le principe, la garde sera confiée à l'innocent, c'était ce qui existait avant. Là, on disait à l'intérêt de l'enfant, mais toujours à l'un des deux. Eh bien, ce que j'ai pu observer dans ces enquêtes que j'ai faites sur le divorce, c'est progressivement se mettre en place l'idée, une idée complètement neuve, qui était les personnes qui se séparent divorcent, mais elles ne divorcent pas de leurs enfants. Mmh. Et donc, ce qu'on va appeler ensuite le principe d'une coparentalité post-divorce, c'est-à-dire vous pouvez divorcer, voilà. La société vous laisse la liberté de divorcer, on ne vous maintient pas mariée malgré vous, mais il y a une contrepartie à ça, et c'est une contrepartie qui est très très forte. Ce n'est pas que l'intérêt de la société, c'est aussi des valeurs communes. C'est que vous ne divorcez pas de vos enfants et que aucun des deux n'a le droit de priver l'autre de ses enfants, et aucun des deux n'a le droit de se défausser non plus des relations aux enfants. Donc, si vous voulez, ce que j'ai pu observer dans le divorce à ce moment-là, sous mes yeux, se faisant même d'une année sur l'autre sous mes yeux, c'est un immense changement des valeurs qui traduisait l'égalité à travers l'invention de relations, par exemple, de coparentalité post-divorce, qui était complètement une innovation sociale.
C'est ce qui vous conduira à forger le concept de démariage.
Le démariage, je ne suis pas venue tout de suite, parce que après avoir travaillé en travaillant sur le divorce, ce que j'ai rencontré, c'est le fait que après le divorce, il y avait des nouvelles configurations familiales qui se mettaient en place, donc des familles monoparentales après divorce, ce qui était le plus fréquent, et des familles recomposées. Et là, je peux le dire maintenant, il y a prescription, je vivais dans une famille recomposée moi-même. Ce que je n'aurais jamais avoué à l'époque, quand j'étais l'une des initiatrices des travaux sur les familles recomposées, on ne devait certainement jamais dire qu'on était concerné quand on était sociologue par un sujet. Ça aurait mis le soupçon de partialité, voyez. Alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Être concerné, ça peut vous donner aussi une acuité dans la perception d'une question. En tout cas, tout va dépendre de la façon dont vous allez construire les choses pour que ça soit pas juste un seul point de vue sur la famille recomposée, le vôtre, mais que vous essayez de multiplier les points de vue sur cette réalité.
Vous voulez dire que votre travail était aussi une réflexion sur votre propre situation, ou une mise en
une mise à distance. Oui, ouais. Mais ce qui m'intéressait vraiment toujours, c'était me comprendre moi-même. Ouais. C'était pas traduire par la recherche une idée que j'avais déjà. Et donc, il faut vous imaginer que à la fin des années 80, les familles recomposées, ça n'existait pas. Il n'y avait même pas de mots pour les décrire. Et donc, j'ai eu la chance, je pense, de pouvoir être de ceux qui ont lancé ce domaine de recherche. Il n'y avait à l'époque pas de mots pour les désigner, pas d'enquête, pas de statistiques, rien. Et donc, nous avons fait cela avec tout un ensemble de collègues. Le mot de famille recomposée, je peux vous dire qu'il apparaît pour la première fois dans un numéro de la revue Dialogue sur les beaux enfants que j'avais dirigé, dans lequel on a cherché. J'avais commencé par un premier travail où on parlait des familles composées, puis c'était pas très joli et ça n'était pas parlant. Recomposer, qui fait penser à remariage. Voilà. Je suis assez contente d'avoir ajouté un mot à la langue française qui est passé dans l'usage courant, mais je l'ai fait aussi dans un travail collectif en lançant un réseau international sur ces sujets qui a essayé de comprendre toute la nouveauté de ce rôle des beaux-parents dans les familles recomposées, ce qui nous a fait découvrir beaucoup de choses concernant les nouveautés dans la famille, et en particulier un point qui allait pour moi rester majeur et qui me poursuivra, on le verra plus tard dans d'autres travaux, qui était le principe d'exclusivité de la filiation. C'est-à-dire, on ne se rendait pas compte à quel point on était fermé à l'idée qu'une toute autre personne que le père ou la mère arrive dans la vie de l'enfant. Et donc, ces pluriparentalités, je reprends ici un mot de ma très chère collègue Agnès Fine, anthropologue de elle travaille sur l'adoption, elle était frappée par justement l'idée d'exclusivité, un seul père, une seule mère, pas un de moins, pas un de plus, et effacez-moi tous ceux qui pourraient être autour. Et donc on a travaillé ensemble à essayer de trouver comment le beau-parent d'aujourd'hui, qui n'était pas un substitut comme autrefois après un veuvage, mais qui devait s'ajouter aux deux parents qui, justement, comme je venais de vous le dire, devaient rester des parents, comment il a négocié progressivement sa place, qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs. Et donc ça a été un énorme travail sur les familles recomposées, très collectif, qui nous a beaucoup fait réfléchir sur la filiation, etc. Et qui m'a amené en effet à la question du démariage, qui est donc à la fois un livre et puis un concept, si je peux dire. C'est qu'enfin j'ai trouvé, après ces travaux sur la famille, une première réponse à l'idée qu'est-ce qui change dans les relations avec l'égalité des sexes. Si l'égalité des sexes, ça change la règle du jeu, et ça change pas simplement plus d'opportunités, plus de droits pour les femmes, ça change la règle du jeu. Eh bien, le changement majeur, au fond, c'est ce que j'ai appelé le démariage, c'est-à-dire le fait que se marier, ne pas se marier ou se démarier, qui était se marier, c'est une obligation sociale impérative. Si une femme pas mariée, c'était comme je vous l'ai dit en évoquant mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, c'était la menace d'être une fille perdue. Donc ne pas se marier, se démarier, c'est une obligation impérative de mariage. La question là de se marier ou pas, de se démarier ou pas, devient une question de conscience personnelle. Et ça, c'est un bouleversement immense, que j'arrive à mettre un mot dessus. Une question de conscience personnelle. Et si vous voulez, c'est à peu près l'équivalent de ce qui s'est passé dans la religion, au moment de la Révolution française, des grandes révolutions démocratiques, quand la religion, qui était l'horizon indépassable des rapports sociaux, devient une question de conscience personnelle. Il faut quand même rebâtir l'ensemble des institutions politiques. Eh bien, quand le mariage, qui était l'institution qui organisait toute la parenté, toute la famille, toute la filiation, rentre à l'intérieur des consciences privées et devient une question de conscience personnelle, eh bien, il faut rebâtir les choses. Et donc, premier mot, première étape sur ce travail sur le rapport entre transformation de la famille et égalité, à ceci près que je trouve le démariage, mais je n'arrive pas à expliciter complètement le rapport avec l'égalité des sexes. Et c'est les hasards de la vie, mais disons, voilà, j'ai écrit mon livre et quelques semaines après ou quelques mois après qu'il soit paru, on m'offre un livre bouleversant pour moi qui allait me donner l'illumination sur mon sujet. Et ce livre, c'est le livre de Stanley Cavell qui s'intitule « À la recherche du bonheur, Hollywood et la comédie du remariage », qui est un livre sur les grandes comédies américaines des années 30, des années 40 et qui, pour le dire très vite, est un livre qui remarque un genre nouveau dans le cinéma qui se met en place dans ces années-là. Donc, vous voyez, ça revient très loin. Mais c'est un enracinement de ces années-là vers un nouvel idéal conjugal quand la femme devient une véritable interlocutrice de l'homme. Ce que me fait comprendre Cavell, c'est que l'égalité, ça n'est pas simplement plus de droits, c'est quand la femme devient une véritable interlocutrice de l'homme. Et à ce moment-là, que l'idée du couple lui-même ne peut plus être la même. On peut plus avoir l'idée, c'est avec deux ne faire qu'un. C'est plutôt avec un et un faire deux voix, un duo, une relation qui ne peut être que contractuelle, etc. Et donc, j'ai l'explication de ce que je voulais faire, en quelque sorte, qui arrive juste après mon livre, mais qui va m'entraîner, en fait, vers d'autres aventures, comme on disait quand j'étais petite.
Irène Théry, merci beaucoup. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alexandre Breton avec Irène Théry. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Claude Nior, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible en intégralité sur franceculture.fr et l'appli Radio France.